Jacques se pose aujourd'hui à la Turquie, nous allons nous plonger dans son imaginaire. Entre étoiles, ours, héros et monstres, entre le Coran et les contes des mille et une nuits, quel est l'univers symbolique des Turcs? On en parle ce soir à partir de 21h. France Inter.
La différence.
15h passées de 4 minutes sur France Inter, là-bas si j'y suis, Daniel Mermet, et d'abord vos messages.
Les journalistes nous annoncent que la Grèce a été notée CCC par les agences de notation, ce qui est la plus basse note qui puisse exister. Alors je m'interroge, quelle note pourrait avoir un pays comme le Mali? Il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas d'université, il n'y a presque pas d'école, il n'y a pas de route. Qu'est-ce qu'elle note, ces agences de notation? Pourquoi les journalistes ne font pas leur travail? Qu'est-ce que c'est que ces écoles de journalistes qui forment des belus comme c'est pas permis? C'est Jocelyne, de Drôme-Ardèche.
Le monsieur de Macadam, qui vendait le journal depuis plus de 10 ans sur le parking devant le supermarché Attaque des Chanel à Clermont-Ferrand, est décédé depuis plus d'un mois. Et je viens juste de l'apprendre. Ce monsieur était polonais. D'une grande gentillesse, très posé, il était toujours affable, souriant, rendant des services, rangeant les chariots, portant les sacs. Je ne l'ai vu qu'une seule fois en colère quand des jeunes avaient laissé sans soin des chiens enfermés dans un camion. Son état s'est dégradé petit à petit. Après un séjour à l'hôpital, il était revenu courageusement à son poste. Il se plaignait de plus en plus du froid. La dernière fois, il ne pouvait même plus parler. Il est mort d'une maladie liée à ses conditions de vie. Il est mort de misère. Je voulais lui rendre hommage. Françoise de Clermont-Ferrand.
On vit une époque formidable. Lu dans la presse il y a 3 jours, à Rennes, pour avoir chanté du Brassens, hécatombe au marché de Brive-la-Gaillarde, alors que des policiers passaient par là, un gars écopa de 200 euros d'amende et de 40 heures de travaux d'intérêt général. En réponse, un joyeux groupe de 29 Toulousains, les Canailles du Midi, se firent embarquer au commissariat pour avoir repris la même chanson sur la voie publique. Brassens n'avait pas été interdit depuis les années 50. Ça lui donne un sacré coup de jeune, aux copains d'abord, mais quand même difficile d'en rester là. Alors, nous proposons à ceux que ça chante de nous retrouver samedi prochain, le 18 à 17h, au métro Cité, entre le palais de justice et la préfecture de police pour en pousser une. De préférence, Hécatombe et Gorille, haut les cœurs. C'était Jacques du Montparnasse.
Bonjour Monsieur Mermet, je viens d'écouter votre émission tout à fait intéressante sur les grèves des mines. Je suis toutefois un tout petit peu embêté, vous avez fait allusion un bref moment aux prêtres ouvriers, mais ils étaient en fait très très peu nombreux, ils étaient par leur hiérarchie tout à fait mis à l'écart. Or, il se trouve qu'à cette époque-là, les églises protestantes qui étaient dans le bassin minier se sont tournés complètement vers les mineurs et les ont beaucoup aidés. Beaucoup des mineurs étaient eux-mêmes membres de ces églises. Voilà, j'aurais bien aimé que vous y fassiez allusion. Au revoir.
Alors qu'Ambroise Croizat, ministre communiste du Travail en 1945, appliquait consciencieusement le programme du Conseil national de la Résistance, Robert Lacoste, ministre socialiste du Travail en 1948, entreprenait la destruction méthodique des acquis issus de la libération, et notamment le statut des mineurs imposé par le ministre des Travailleurs. Régis, de Nîmes.
Salut Daniel, salut les AMG. Bravo et merci pour ton émission sur la grande grève des mineurs de 1948. Je m'interroge, qui était le président du Conseil? Et aussi, est-ce que les socialistes ont demandé pardon aux mineurs pour la sauvagerie avec laquelle ils ont réprimé cette grève? Merci pour les infos.
Oui, ben c'est Guy Houdet de la Meuse. J'ai écouté votre émission, Daniel, sur la grève des mineurs en 1948. Moi, je me trouvais en 1948 à Longwy. Et il y avait, dans le même temps, un mouvement qui a accompagné la grève des mineurs, des sidérurgistes. Et j'étais avec ma maman, j'avais 6 ans, et mes parents sont des militants, hein, faut dire. Bon, on s'est cogné les CRS, c'est pas grave, les sidérurgistes étaient vraiment remontés. Hein. Ensuite, nous avons déménagé, mon papa travaillait à la SNCF, et nous nous sommes retrouvés à Verdun. Et en 1949, un an après, il y a eu l'affaire des péniches de sucre. Parce que le sucre montait en Allemagne, et nous, on n'en avait pas. On avait des cartes d'alimentation, et on n'avait pas de sucre. Et il y a eu une lutte assez sévère avec les CRS. J'étais toujours avec ma maman, et ma maman avait dans son sac une demi-livre de poivre. Quand ça chauffait, elle te balançait une poignée de poivre dans la tronche du CRS, je te prie croire qu'il n'était pas content. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Votre émission est formidable, comme beaucoup le disent. Et j'espère que nous allons vous retrouver à la rentrée. Dans la même veine, n'est-ce pas? Je te serre la main, Daniel, en toute camaraderie.
Merci. Merci en toute camaraderie. Je vous dis bonjour et on continue aujourd'hui avec l'histoire de cette grande grève des mineurs de 1948. Vous savez pourquoi? C'est que après des années de démarches et de, en justice, 17 de ces mineurs, en mars dernier, 63 ans après, ont obtenu gain de cause. 63 ans après. Pourquoi? Bien parce que, la répression, on l'a dit et redit, a été extraordinairement féroce et brutale. Et notamment, 3000 mineurs avaient été, à l'époque, licenciés. Amnistie en 1981, puis ses poursuites devant les tribunaux, puis en mars dernier, reconnaissance, réhabilitation, indemnisation. Hélas, il y a quelques jours, la ministre de l'économie et des finances a décidé de se pourvoir en cassation. Donc, l'illégalité des licenciements est reconnue, les indemnités vont être versées, mais selon la décision de la Cour de cassation et un éventuel renvoi en cour d'appel, les choses sont remises en cause, mais le temps passe. Les 17 derniers mineurs, en fait, ils ne sont plus que 7, ils ont 84, 86, 81, etc. Donc voilà où on en est. Merci Madame Lagarde. Quel respect pour ceux qui se sont battus tout au long de leur vie. Pourquoi? Eh bien, on va le savoir et le redire aujourd'hui jusqu'à 16h dans la Basse, si j'y suis. La guerre des mineurs. Oui, je dis bien guerre. C'est volontaire. C'est pas grève que le mot que j'ai employé, c'est guerre. Jusqu'à 16h. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la base, j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Salut Daniel et toute l'équipe, salut à tous les AMG, c'est Xavier de Montpellier. Depuis 2 ans, il n'y a plus de café repère à Montpellier, mais tel le phénix, le café repère renaît toujours de ses cendres. Je vous annonce donc sa réouverture ce soir à 20h au café Le Dôme, 2 avenue Georges Clémenceau. Nous parlerons ensemble du gaz de schiste. Seront présents avec nous Séverin Pistre, hydrogéologue et chercheur au CNRS, ainsi que des membres du collectif Grand Montpellier Gaz de Schiste Non Merci. Jean-Philippe le patron et moi-même serons ravis de vous accueillir. Alors, à ce soir, portez-vous bien, salutations résistantes.
Bonjour à tous les AMG. Ce soir, prochain repère des AMG de là-bas si j'y suis, à Pont-sur-Yonne, à 20h au Baroque Café, 4 rue du Pont, à Pont-sur-Yonne.
Bonjour, je viens d'entendre à France Info que l'indemnité de licenciement de M. Claude Puel, entraîneur de l'Olympique Lyonnais, s'élèverait à 4 millions d'euros, ce qui équivaut à 800 années de RSA. À ce prix-là, il peut se payer un beau canapé. Merci.
Actualité française.
Dans le Nord, la grève des mines continue. Le charbon ne sort plus.
14 octobre 1948.
Et faute de combustible, on peut craindre que la production française soit menacée d'arrêt. De graves bagarres ont opposé grévistes et forces de police devant le puits numéro 5. Il y a eu des blessés.
La grève, elle était juste, hein. On réclamait notre but.
De plus, il y a eu un mort étouffé par la foule. Un cortège compact et silencieux a accompagné à sa dernière demeure la malheureuse victime.
Ben oui, c'était mené par les communistes, mais il n'y avait qu'eux qui pouvaient. Il n'y avait qu'eux qui nous écoutaient. Non, c'est ça qu'il faut dire, mais il faut voir les fiches de paye. Et comme ça, on a tout compris. Ben, quand j'ai vu la première fiche de paye, j'ai dit, quoi, acheter du pain, hein, c'est tout.
Les pauvres mineurs, ils sont vraiment démunis, ils ne sont pas armés, ils ont contre l'armée, etc., avec des automitrailleuses. Le rapport des forces est totalement disproportionné.
Le problème de la grève actuelle commande l'attention nationale. Le gouvernement doit y faire face avec lucidité, avec humanité, avec décision.
C'était la guerre, hein ? C'était la guerre. La guerre décrétée par le gouvernement contre les mineurs.
Et c'est justement quand on a des rapports de force aussi disproportionnés qu'on se bat finalement contre tous. C'est un combat désespéré, quoi. Je veux dire.
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est là-bas si j'y suis, avec Charlotte Perry, la grève des mineurs de 1948.
Flight number 2, arriving from Newton.
C'est le bateau si on peut l'acheter.
Il n'est pas encore là, hein.
D'accord.
Il faut y être 10 minutes avant.
D'accord, merci.
Bonjour, bonjour. Je voudrais un billet pour le Cap Ferret, s'il vous plaît.
Un aller simple, un aller retour.
Un aller simple, s'il vous plaît. Merci.
Bonne journée.
Au revoir. Alors voilà, on se trouve à Arcachon. On vient de prendre un billet pour aller au Cap Ferret, à l'extrémité du bassin d'Arcachon, de l'autre côté. Là, on se trouve bien loin du paysage minier des Terries. Tout autour de nous, il y a la mer, la plage. On se trouve sur le port de Plaisance, il y a plein de petits bateaux amarrés, il y a déjà pas mal de monde sur la plage, il y a quelques baigneurs qui se risquent à l'eau. Donc nous, on va aller prendre le bateau pour se rendre au Cap Ferret, où vit Achille Blondeau. Achille Blondeau était mineur, fils de mineur à Rébeaucourt, dans le Nord. En 1948, il était dirigeant syndical de la Fédération des travailleurs du sous-sol, CGT, à Lens. Par la suite, en 1968, il est devenu le secrétaire général de cette Fédération nationale des travailleurs du sous-sol. Et aujourd'hui, il est un des derniers dirigeants nationaux à avoir connu les grèves de 1948. Alors justement, nous, on va aller le rencontrer pour essayer de comprendre le caractère passionnel de ces grèves. Des grèves qualifiées d'insurrectionnelles par le gouvernement socialiste de l'époque, qui ont été réprimées dans le sang et qui se sont déroulées dans une atmosphère politique très particulière, qui fait qu'il aura fallu attendre plus de 60 ans pour que les mineurs licenciés et révoqués à cette époque soient réhabilités dans leurs droits.
Vous aurez beaucoup de mal à trouver un livre entier sur cette histoire, sur cette épopée sociale française que fut la grève de 1948. Un grand film, une grande histoire? Non. Des bouts, des recherches, des documents épars, des cahiers de l'Institut d'histoire sociale minière, mais aucun travail véritablement d'ensemble et aucune création à la hauteur et à la profondeur de ce que fut cet événement. 56 jours de grève du 4 octobre au 28 novembre 1948. Le 4 octobre, ils sont 340 000 mineurs en grève dans toute la France, dans les 6 bassins miniers français, pas seulement à Lens, mais partout. Le 7 octobre, le premier mort en Moselle. Le 13, 6 femmes de grévistes sont blessées par les CRS à Forbach. Et le 21 octobre, ça c'est un très très grand moment quand même, à Monceau-les-Mines, une centaine de CRS sont faits prisonniers par les mineurs. Ça, quand vous passez, je pense encore aujourd'hui, dans la région de Monceau-les-Mines, il est bien rare qu'on vous raconte pas cette histoire. En tout cas, on la racontait parfois avec un vieil accent polonais. Il n'y a pas si longtemps, et c'était un gouvernement socialiste, 45-47. C'est un épisode, c'est l'épisode de la bataille pour le charbon. Il faut du charbon pour retrouver l'énergie nécessaire à redresser le pays. Mais en 47, un nouveau gouvernement avec une autre politique, et les avantages, entre guillemets, obtenus par ces mineurs héroïques sont remis en cause. 45-47, les communistes sont au gouvernement, ils n'y sont plus avec ce nouveau gouvernement de 47, donc ça leur donne une certaine liberté d'action. Une grève à la fois pour les statuts, pour le pain, pour la reconnaissance, pour les salaires. Il y avait une inflation terrible quelque temps auparavant, mais cette grève était-elle politique, comme on dit, entre guillemets? Y avait-il derrière ces grévistes la main de Moscou qui était là? C'est ce que prétendaient ceux qui ont réprimé cette grève, à commencer par le ministre de l'Intérieur, le socialiste Jules Moc. Des années plus tard, 63 ans plus tard, nous retrouvons au Cap Ferret l'un des essentiels protagonistes de cette histoire, Achille Blondeau, responsable syndical à la Fédération des travailleurs du sous-sol CGT de Lens en 1948, et qui nous attend tout frétillant pour nous raconter cette histoire jusqu'à 16h, c'est là-bas que j'y suis, la grève des mineurs de 1948.
Il y a longtemps, et je m'en rappelle, j'étais aux lames et de la région. Il fallait le saquer à l'pelle d'un chétal et j'carbon. Un étau noyé de sueur, animé tôt tout 5 heures. Un savour que j'en étau pas pour rien, j'ai comme chaque agneau sympa. Pour chat, un étau pas tout seul, là-haut, il n'a vaut deux. Tout à l'chette du chevalet, il n'arrête pas de tourner. Quand elle vaut ses yeux, un étau tout heureux. Aujourd'hui, un vaut plus chat, j'ai une cropuque, ça retournera. Ils vont bientôt disparaître, les molettes. Y'a Totoche, un vieux mineur, qui vient d'avoir espation. Y'a Banmo, à 5 heures, qui ne peut plus virer le fond. Comme il dit chez tôt le bon temps, si j'avoue encore 20 ans, j'apprendrons à tous ces jeunes d'Aster comment tenir un marteau piqueur. Mais un ravisant à l'air, tout d'un coup, y a vite brère. Tous les jours et de bon matin, des levoyettes et de Saint-Gardin, ils veillent aux tournées de roulettes, chavivaux chez Tobias. Aujourd'hui, ça ne marche plus, j'ai mué comme un statue, avaler, faire disparaître nos molettes.
Donc là, Achille Blondeau, on est chez vous au Cap Ferret.
Oui.
C'est à l'extrême point du bassin d'Arcachon.
C'est ça, de l'autre côté.
Je suis né dans le nord, dans le bassin minier du Douaisis. Et j'ai grandi, non loin de là, à Rabaucourt. En 1948, je venais de quitter la mine depuis quelques mois. J'avais quitté début juillet. Et j'ai vécu la grève à la direction régionale des mineurs du Nord-Pas-de-Calais. J'étais également membre du bureau de la Fédération nationale des travailleurs du sous-sol.
Qu'est-ce qui s'est passé en fait en 1948? Comment a débuté la grève? Il y avait des profondes racines au mécontentement des mineurs. Comment tout ça a débuté?
Il faut se rappeler... Bon, le grand rôle que les mineurs ont joué pendant la guerre, les mineurs étaient à l'avant-garde de la lutte de masse contre les Hitlériens. Ensuite, alors qu'ils étaient fatigués, sous-alimentés, on a demandé aux mineurs un effort pour relever le pays. C'est ce qu'on a appelé la bataille du charbon. Les mineurs l'ont gagné. Et à l'époque, vous aviez les affiches éditées par le gouvernement Leroyer, mineurs, premier ouvrier de France. Bref, les mineurs étaient les sauveurs de la France. Et quelques mois après, en 1948, alors, changement de programme, on avait plus besoin du charbon français. À terme, on prévoyait très vite la fermeture de tous les puits dits non rentables, au profit des mines allemandes, où le rendement est beaucoup plus élevé. C'est ce qu'on a appelé le plan Schuman, la CECA, la Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier. Fallait briser les mineurs pour pouvoir appliquer une telle politique. C'est pour ça qu'on voulait briser les mineurs en 1948. La corporation l'a senti. Ça. Vous savez, les ouvriers ont quand même du flair. C'était un changement fondamental de politique par rapport à ce qui s'était passé en 1946, où le mineur était l'ouvrier le mieux payé de France. Là, il voulait en faire l'ouvrier le moins bien payé. Disons que dès que les ministres communistes ont été exclus du gouvernement, début mai 47, tout de suite, on a vu la différence. En même temps, faut pas oublier qu'on était quelques mois après la scission syndicale. Scission syndicale qui a été fomentée par les dirigeants de forces ouvrières au début de 1948. La fédération du sous-sol était la première fédération de la CGT, disons la fédération d'avant-garde, et porter des coups à la fédération des mineurs, détruire, parce que le but, en définitive, de la répression, ça a été de détruire la Fédération nationale des mineurs, c'était affaiblir considérablement la Confédération. Mmh. C'était le but visé.
Et donc là, on va regarder un film qui a été fait justement par la Fédération des travailleurs du sous-sol, c'est ça ?
C'est un film qui a été commandité par la Fédération. Et c'est Louis Daquin, qui est avec son équipe, qui l'a réalisé, qui a un film extraordinaire, qui a suscité beaucoup de craintes chez le gouvernement. Il n'a jamais eu son visa pour être produit, pour être présenté. Et tout de suite, quand il est sorti, chaque fois qu'on le présentait dans une salle, les flics arrivaient et saisissaient la bobine. Ce qui fait que nous en avions une quinzaine de bobines et maintenant elles sont extrêmement rares. La plupart ont été saisies par les flics. Au nom de la liberté.
La grande lutte des mineurs. Réalisé bénévolement par les techniciens et travailleurs de l'industrie du film CGT.
La mine, paysages durs et sombres où la poussière noire recouvre tout.
Sinon, le Pas-de-Calais, hein.
La mine, décor de roman, prétexte à belles images, source inépuisable d'effets faciles.
C'est un film qui a été tourné uniquement dans le Nord, le Pas-de-Calais. À l'époque, il y avait un peu plus de 100 puits.
Mais la mine, qu'est-ce encore ? Surtout et avant tout des hommes. Des hommes descendent sous terre quand le soleil se lève et ne remontent à la surface qu'avec l'ombre.
Et vous voyez, les mineurs avaient encore la barrette de cuir avec la lampe à la main. Il n'y avait pas encore ce qu'on appelait les lampes chapeaux.
Poussière de charbon qui de mois en mois pénètre dans les poumons. Ces hommes, ce sont les mineurs qui ont tout donné. Les grèves héroïques de 41 qui entravèrent la guerre des nazis. Les combats de 44. Qui firent plus proche la victoire. Et enfin, l'extraordinaire période qui suivit la libération, la bataille du charbon. Alors qu'en 1919, il avait fallu 5 années pour compenser la perte causée par la guerre, en 1945, Moins de 2 années suffisent à combler leur tard. Les mineurs relèvent la France avec leurs piques, avec leurs bras, avec leur cœur. Et cette période d'enthousiasme et de courage, c'est celle que choisit Daniel Meyer pour traiter les mineurs de roupions. C'est celle que choisit Schumann pour leur reprocher de travailler le dimanche. Quel respect brusquement pour les droits syndicaux. Ou bien ne serait-ce pas plutôt parce que le charbon américain offre ses avantages à tous ses apéristes. Encore une fois, il n'y a plus de sens politique dans la tête d'un mineur de fond que dans celle d'un politicien. Leurs délégués sont arbitrairement chassés. Par des décrets de brimade, le ministre Lacoste les exclut du contrôle des caisses de sécurité. La sécurité dans la mine, précaution indispensable, dont dépend l'existence de milliers d'hommes, est insuffisamment assurée. Courrière, Petite Rosselle, Liévin, des blessés affreusement mutilés, des corps écrasés, brûlés, martyrisés. Ce métier, le feriez-vous, messieurs les politiciens? Le feriez-vous pour ce salaire de misère? Le feriez-vous pour 14 300 francs par mois? Les mineurs sont écœurés par toutes ces ignominies. Cette grève est juste, cette grève est unanime, elle est votée à 90% des voix.
Mais c'est des manifestations de...
Ah oui, oui, il y avait naturellement, quand il y a une grève comme ça, on fait vivre la grève avec des manifestations. Et là, c'est les femmes, remarquez là, ce qu'on avait vu, énormément de femmes dans les rues. Les femmes ont toujours joué un grand rôle dans les grèves de mineurs.
Et dans les rues, les hommes, les femmes, les jeunes, les vieux affirment leur droit à la vie.
On soutient à leur mari.
Et là, ce sont les enfants qui sont accueillis.
Enfin, il y a des milliers d'enfants qui sont partis.
Dès le début de la grève, la solidarité de la France entière se manifeste avec force.
Il y a eu un accueil dans la région parisienne extraordinaire. D'ailleurs, il est resté pendant des décennies et des décennies des liens entre les familles qui avaient reçu des gosses. Et auparavant, en 1946, les mineurs avaient donné une petite partie de leur charbon qu'ils avaient pour les écoles et les hôpitaux de la région parisienne. Et la population parisienne l'avait pas oublié. Elle a rendu l'appareil pendant la grève de 1948. Regardez-moi ça, c'est extraordinaire.
Ça, c'est des voitures qui partent vers Gentilly, vers la région parisienne.
Oui, des voitures de la région parisienne.
Pleines d'enfants.
Qui partent quand les chars arrivent. C'est une image terrible.
Le gouvernement, qui selon l'expression même de Jouot, espérait laisser pourrir la grève, est obligé de constater que l'entraide et la solidarité de tous permettent aux mineurs de tenir. Et plein de fureur, il dépêche les ambassadeurs habituels. Et ces images imposent un terrible rapprochement. Des enfants qui fuient et des soldats qui montent, images de guerre. Images de la guerre que le gouvernement déclare au peuple.
Et eux là, c'est qui? C'est des...
C'est les soldats là.
Le rappel des classes. Et on voit sur place de grands déploiements de forces.
Le Nord, le Pas-de-Calais est occupé. Pendant la guerre, c'était par les Allemands, et là, c'était par les CRS et les troupes françaises.
Un véritable état de siège est organisé.
60 000 hommes de troupes contre les mineurs. 60 000. C'est la grève la plus réprimée qu'il y ait eu le lendemain de la guerre dans notre pays. Et avec 6 morts au total.
Pourtant, les mineurs ne se laissent pas impressionner. Dans le calme et l'union, la grève continue. Mais le gouvernement ne se contente pas de menacer. Le 7 octobre, à Merlebach, le mineur Jean Sec est tué à coup de crosse. Et l'indignation monte dans toutes les poitrines. Parce que pour le peuple, la vie d'un homme, c'est quelque chose, monsieur Moche. Quelque chose de plus important que votre prestige gouvernemental. Et pour protester contre cet assassinat et les provocations policières, la Fédération des mineurs décide de suspendre la sécurité pendant 24 heures à titre d'avertissement. Et c'est vous, monsieur Moche, qui en portez la responsabilité parce que c'est vous qui l'avez cherché et provoqué. Le jour même de cette décision, se servant de ce prétexte, le gouvernement et ses CRS renforcent ses brutalités et déclenchent de vastes opérations militaires. Toutes les armes rentrent en action. Les mitrailleuses crachent. Deux hommes meurent sous les balles.
Là, c'est Firmini. C'est Firmini quand ils ont tué Barbier.
C'était un mineur, Barbier ?
Oui, c'était un mineur.
La police lance des bombes lacrymogènes importées d'Allemagne.
On voit des mineurs lancer ce qu'ils peuvent.
Des cailloux. En face, il y avait des fusils et même des canons. Ils ont tiré au canon. Et de l'autre côté, il y avait des cailloux.
Les mineurs, aux mains nues, ripostent avec ce qu'ils peuvent. Dans cette lutte inégale, ils parviennent encore à rendre coup pour coup avec ces armes improvisées. Et on trouvera des tribunaux, on trouvera des juges pour condamner ces hommes que l'on accuse d'avoir utilisé des armes à feu. Moche le menteur tente d'assassiner aussi la vérité.
Moche le menteur.
Là, oui, c'est Jules Moc, le ministre socialiste de l'Intérieur, a prétendu que la police n'avait fait que riposter quand ils ont tué Barbier. Et tous les journalistes français et internationaux qui étaient présents sur place ont publié un communiqué démentant les assertions du ministre de l'Intérieur et indiquant qu'il n'y était parti aucun coup de feu durant des mineurs. Et c'est ça qu'on voyait sur l'affiche et qui reprenait ce communiqué de presse.
Avec ce qui a été dépensé pour briser la grève des mineurs, on aurait pu donner satisfaction à leurs revendications pendant 4 ans. Et on préfère accorder 15 000 francs par mois de prime à chaque CRS que 14 300 francs par mois de minimum vital aux mineurs. Mais la colère est dans leur cœur. Et la grève continue. Et les mineurs se défendent avec acharnement contre les furieux assauts des mercenaires déchaînés.
Là, c'est la manifestation de Béthune, je crois.
Il y a un monde fou, c'est fou, cette foule.
Oh, non, Béthune, on était des dizaines et des dizaines de milliers.
Là, on voit les slogans, c'est RSSS.
C'est RSSS. Il n'est pas juste, hein, ce slogan. Parce que quoi qu'on puisse reprocher au CRS, on peut quand même pas comparer un CRS avec un SS quand on sait les horreurs qu'ont pu commettre les SS. Mais enfin, dans le feu de l'action, dans le paroxysme de la colère, il arrive qu'on exagère parfois dans les appréciations.
Conséquence directe du plan Marshall, le matériel et les équipements américains finissent par avoir raison. Des boulons, des morceaux de bois et des pierres trouvés sur place par des hommes totalement désarmés. Les CRS parviennent à envahir les mines. C'est l'occupation, comme au temps des Boches. Mais ce ne sont pas les CRS qui peuvent faire remonter le charbon. Pour Moche, tous les moyens sont bons, même les plus ignobles. Laissant libre cours à sa xénophobie, oubliant les monuments aux morts de la résistance qui portent tant de noms à consonance étrangère, il offre aux ouvriers étrangers ce dilemme machiavélique. Le travail du briseur de grève ou la frontière. Pour les Espagnols antifascistes, c'est la mort.
Cette manifestation, ça se passe au Puy Bonnel, où Gumet s'est délégué mineur. Regardez ce mineur noir, il n'y en avait pas beaucoup, on voit que lui. Regardez, on voit que lui, ce mineur noir, souriant.
Tenu par le bras par une petite dame.
Cédant parfois devant les tanks, les travailleurs de la mine sortent des puits, drapeaux en tête. Au puits Renard, le gouvernement prétend cesser toute exploitation. Puis il lance la fable de la reprise du travail. Mais il paraît que ce n'est pas si facile. Les mineurs n'ont pas cédé. Ils protestent, ils serrent les dents. Ils tiennent le coup. Parce qu'ils ont conscience de lutter contre la misère. Pour leurs revendications, pour la cause de tous les travailleurs. Pour la cause de la nation tout entière.
Tous les mineurs qui occupaient le puits sortent en chantant l'international.
Ils sont délogés par l'armée.
Oui, bien sûr.
La lutte des mineurs est la vôtre. Elle est la nôtre. Et c'est pourquoi plus que jamais la solidarité doit les soutenir. Donner pour les mineurs, c'est donner pour soi-même. Garder leurs enfants, c'est protéger l'avenir de ses propres gosses. Prenez garde. Tremblez, profiteurs et vendus. Le peuple vaincra. Il passera sur tout, sur vos chiens, sur vos tanks, sur vos mitrailleuses. Il passera, que vous le vouliez ou non, parce qu'il est le progrès, parce qu'il est l'avenir, parce qu'il est la vie même, et parce qu'il est comme elle inébranlable et invincible.
Elle est formidable, cette phrase de fin.
Oui, ça c'est du Dakar. Hein. C'était un grand cinéaste, ce Dakar. Hein. Oui, il a su vraiment trouver la fin qu'il fallait pour ça. C'est d'une densité extraordinaire.
Et donc, ça a commencé le 4 octobre ?
Oui. Eh bien, les puits ont été occupés. Les mineurs venaient occuper le puits comme ils venaient pour descendre à la mine. Alors, ça jouait aux cartes, ça jouait aux boules, ça jouait aux dés, ça jouait à n'importe quoi. Ça discutait, ça lisait. Et il n'y a eu aucun incident tant que, ça j'insiste là-dessus, tant que la troupe n'est pas intervenue, il n'y a eu aucun incident. C'est les forces de l'ordre qui ont amené le désordre. Les arrestations, les blessés et les morts. 6 morts. travail de Jules Mouk, qui était ministre de l'Intérieur, qui était ministre socialiste. Alors, moi, je rigole toujours quand j'entends parler des chars de Tiananmen. D'accord, moi, je condamne, hein. Je condamne ce qu'ont fait les Chinois là-bas. Mais je voudrais qu'on ne parle pas seulement de ce qui s'est passé en Chine, je voudrais aussi qu'on rappelle qu'en France, il y a des chars qui ont tiré sur des mineurs, sur des ouvriers français, et qui ont tué. C'est des... Je sais pas. Le terme méprisable, à mon avis, est pas assez fort pour caractériser des hommes comme Lacoste et Mouk. D'ailleurs, sur un grand mur à Billy-Montigny, dans le Pas-de-Calais, on pouvait lire encore cette inscription faite à la couleur blanche. Dieu punira Lacoste et Mouk. Oui, la première fois que j'ai vu ça, j'ai été extrêmement surpris parce que c'est pas un langage que nous en emploie. Hein. Moi, j'aurais dit, bon, il faut envoyer Lacoste et Mouk devant la cour d'assises et les passer à la guillotine. Ça, je l'aurais dit. Je l'aurais dit. Mais oui, Dieu punira Lacoste et Mouk.
Si, pour la troisième fois en trois semaines,
la chaîne nationale,
je reprends la parole,
3 novembre 1948,
c'est tout d'abord pour remercier les mineurs d'avoir entendu mon appel d'il y a 10 jours.
Jules Mouk, ministre de l'Intérieur.
Et les services d'ordre d'avoir témoigné de discipline et parfois d'abnégation. Mineurs, dans votre immense majorité, vous avez compris que de mauvais guides vous conduisaient à la catastrophe pour des intérêts qui n'étaient pas les vôtres ni ceux du pays. Vous avez cessé d'opposer une vaine résistance aux services d'ordre dégageant les puits en vue de les sauver. Vous avez clairement vu que notre devoir vis-à-vis du pays était à la fois de défendre vos puits contre le sabotage voulu par la CGT communisée et d'assurer la liberté du travail aussi sacré que le droit de grève. CRS, gardes républicains, vents d'armes et soldats, soyez vous aussi remerciés pour vos efforts et pour votre sang-froid. Vous avez au début subi le pire des chocs, celui de Français égarés, dressés contre d'autres Français. Assaillis pendant des heures, voyant tomber les vôtres parfois cruellement atteints, vous n'avez pas riposté. Vous avez exécuté les ordres avec une ponctualité et un calme en tout point digne d'éloge.
Alors, j'ai retrouvé, en ce qui concerne le livret blanc des gueules noires édité par le comité d'amnistie aux mineurs et présidé par l'ancien ministre radical Justin Godart, ce texte relate ceci. À propos du mineur Bécard de Decazeville, cet authentique résistant avait accroché un trophée au mur de sa chambre. Un vieux Mauser tout rouillé qu'il n'avait même pas pris la peine de fourbir, car il ne comptait pas s'en servir. Cela suffit pour qu'en novembre, on arracha de son lit Bécard pourtant malade. Avec fort secours, on le traîna dans le sous-sol humide de la gendarmerie. Il a servi son pays volontairement dans la résistance. Il a perdu sa santé à faire du charbon pour notre prospérité, qu'importe. Son mal s'aggrave à la prison malgré la solidarité qui l'entoure. À la veille de Noël, ses bourreaux honteux le relâchèrent précipitamment. Le jour de Noël, Bécard mourut chez lui. Et il est mort chez lui quelques jours après avoir été libéré.
Épisode de la grève de 1948 avec Achille Blondeau, un des principaux protagonistes de cette histoire. Vous avez noté les commentaires du film. En fait, ces commentaires avaient été écrits par Roger Vaillant, assez oublié, mais un grand écrivain qui fut inscrit au Parti communiste français entre 1952 et 1956. Il l'a quitté en 1956 à cause des événements de Budapest. Et vous avez remarqué dans le commentaire comment on amalgame. On dit pas Jules Mouk, mais on dit Jules Moche, et puis on fait rimer un petit peu plus loin avec Bosch. Enfin, c'est de la littérature d'urgence et de propagande. On va retrouver Rolande Trempé, historienne, spécialiste de l'histoire des mineurs.
Rosanne Trempé, donc, historienne et spécialiste de l'histoire des 8 heures. Le lieu de combat, c'est ça qui est intéressant à mettre en relief, c'est le puits. C'est sur le puits que se fait la lutte. Alors, ça suppose aussi des grèves très curieuses, parce que quand vous avez la grève dans une usine, alors la grève, elle est circonscrite à l'usine. Tandis qu'avec la houille, c'est le bassin houillé qui est tout entier, c'est-à-dire une grande circonférence. Et puis, le puits, on les puits, il y a beaucoup de puits pour une seule concession. Autrement dit, les grévistes, s'ils veulent être victorieux, il faut qu'ils occupent tous ces puits. Et c'est ça le problème. C'est un des gros problèmes qui fait que la grève, elle est éclatée, quoi, en quelque sorte. Si elle n'a pas le soutien de toute la population, elle ne résiste pas. Mais alors, pour l'armée qui occupait, elle aussi, il fallait qu'elle aille de puits en puits. Et entre les puits, il y arrivait des bricoles. Elle était attaquée. Alors, qu'est-ce qu'ils avaient pour attaquer? Ils n'avaient pas d'armes, contrairement à ce que Jules Moc a prétendu. Et ils avaient des pierres, à ça, ils ont lancé des pierres. Et une pierre bien lancée avec un élastique, ça tient bien, ça bouge. Non, enfin, vous voyez quoi, ils n'avaient que ça pour se battre. Et puis les autres, dans les automitrailleuses, ils ont tiré à tir réel, quoi. Ils ont eu l'autorisation par Jules Moc de tirer à tir réel. Ça, le rôle de Jules Moc dans cette grève est absolument décisif. Parce qu'entre la fin de la grève de 47 et la grève de 48, Jules Moc est devenu ministre de l'Intérieur, 47. Et il n'encaisse pas la fin de la grève de 47. Il prépare la grève qui va suivre. Il y a une véritable provocation de sa part. Et il crée les IGAM. Alors l'IGAM, ça n'a jamais existé dans le droit français. C'était le commissaire de la République qui avait été créé à la Libération, qui est doté de pouvoirs spéciaux. Sinon, le commissaire de la République, il a des pouvoirs civils. Les pouvoirs militaires sont exercés par l'armée. Et s'il n'y a pas entente entre les deux, ça va mal. Alors là, justement, pour qu'il y ait unité, si vous voulez, de commandement, le commissaire de la République devient IGAM. Il est doté du pouvoir à la fois civil et militaire. Chose qui ne s'était et qui ne s'est jamais revue dans toute l'histoire de France. C'est la grande originalité. C'est l'unique grève qui a été comme ça. Alors, vous voyez tout de suite que Jules Moc va littéralement préparer la répression en créant les IGAM, en rappelant des troupes d'occupation en Allemagne. Autrement dit, il a vraiment préparé la guerre. Il a préparé la répression. Et comme il était fort intelligent, ça a été préparé remarquablement, quoi, si je puis m'exprimer ainsi. Puis alors, évidemment, de l'autre côté, faut pas croire que les mineurs sont aussi des petits saints. Mais ils ne sont pas armés. Ils n'ont rien pour se défendre. Et ils ont contre l'armée. Non mais, le rapport des forces est totalement disproportionné, quoi. Et c'est justement quand on a des rapports de force aussi disproportionnés qu'on se bat finalement contre tous. C'est un combat désespéré, quoi, je dirais. En plus de ça, les mineurs, il y a une tradition de lutte, et de lutte dure, absolument incroyable. Il y a tout un héritage, et ils ne peuvent pas être au-dessous de l'héritage. Il y avait une fierté, et on ne pouvait pas faire moins que ce qu'avaient fait les anciens. Alors, enfin, vous voyez comment cette grève, elle a un caractère absolument extraordinaire et exceptionnel. On n'a jamais vu ça, quoi.
L'état de siège, ça voulait dire que nuit et jour, vous aviez des forces policières dans les rues, dans les villes, dans les corons.
Achille Blondeau.
Nuit et jour.
Responsable syndical de la Fédération des travailleurs du sous-sol à Lens en 1948.
On était 250 000 mineurs. Désarmés, et 60 000 hommes avec un fusil. Un soldat pour quatre avec un fusil dans les mains, plus les chars, les chenillettes, les canons. À Liévin, les camarades, un pluie de Liévin, ils avaient fait une barricade, ils avaient couché un wagon, ils ont démoli la barricade à coups de canon. C'était la guerre, hein. Ça, c'était la guerre. La guerre décrétée par le gouvernement contre les mineurs.
Et alors, tous les généraux battus de 1940, ils prenaient leur revanche, alors, ils dressaient des plans. Bon, maintenant, faut dire que quand ça se battait, les mineurs tapaient aussi, hein. Et ils avaient raison, hein. Ah oui, on n'allait quand même pas prendre des coups sur le coin de la figure, sans riposter. À Monceau-les-Mines, les mineurs ont fait prisonnier une compagnie de CRS. Tout. De l'officier au soldat.
Ils en ont fait quoi?
Eh bien, ils les ont tenus, ils ont envoyé le puits, les CRS étaient sur le puits, et puis les mineurs sont arrivés en masse, ils étaient tellement nombreux, alors ils se sont laissés faire prisonniers. Enfin, ils les ont relâchés, qu'ils voulaient qu'ils en fassent. Puis il y a eu une grande bataille. Il y a eu Béthune, la bataille de Béthune. Il y avait un docteur dans le Pas-de-Calais qui s'appelait le docteur Verskel, qui était le docteur des mineurs, très aimé des mineurs. Il a été arrêté et quand ils sont venus pour arrêter, parmi les flics, il y a une femme qui a reconnu un flic qui était venu arrêter son mari pendant la guerre. Alors, les femmes ont tout de suite été alertées, ils se sont emparés du flic et ils lui ont enlevé son pantalon. Ça, c'est la grande... Je ne sais pas si c'est seulement dans le Nord-Pas-de-Calais, mais c'est la plus grande humiliation qu'on peut infliger à un homme, lui enlever son pantalon. On se sent plus un homme quand on n'a plus de pantalon. Donc voilà, Verskel arrêté avec d'autres. Et on décide une manifestation, à Béthune pour libérer Verskel. Quand on est arrivé à Béthune, et quand on a vu les cortèges de mineurs qui arrivaient, les cortèges... Noir de monde, Béthune, noir de monde. Alors, nous, on est allé à la sous-préfecture pour demander que le sous-préfet fasse libérer nos camarades. Il est intervenu en vain. La foule s'est amassée devant la sous-préfecture, la foule a envahi la sous-préfecture, elle a pris le sous-préfet, elle lui a mis un drapeau rouge dans les mains, et on est parti. Un drapeau rouge, c'était un sous-préfet socialiste.
En tête de cortège
en
avec
tête
le...
du cortège, en tête du cortège avec un drapeau rouge. Alors les CRS sont sortis de ces souterrains, et là ça a commencé, là ça a été la bagarre. À Béthune, ça a été la bagarre. Les soldats sont montés, mais on aurait dit qu'il y avait 3-4 divisions ennemies qui étaient aux portes de Béthune, tellement il y avait de troupes dans Béthune. Et les journalistes ont pris une multitude de photos, et au travers les photos, ils ont arrêté toute une série de camarades. Alors nous, on avait dit aux camarades, si vous êtes convoqués devant le tribunal, niez. Vous mentez, mais vous mentez à des ennemis, ça fait partie de la lutte. Alors, des camarades, monsieur le président, je vous jure que je n'étais pas à cette manifestation. Alors, le président du tribunal sortait une énorme photo. Vous voyez le gars, elle disait qui c'est qui était là. Ils ont arrêté des centaines de camarades. Ah oui, ça, la bataille de Béthune nous a coûté cher en condamnés et en amende. C'est pas commun. Hein. De cette grève de 1948, on peut en faire un très très gros volume. Hein. Et jamais personne n'a écrit dessus.
Comment ça s'est terminé alors? Comment elles sont terminées ces grèves?
Eh bien, les grèves se sont terminées que... elle a été très longue. C'est une des plus grandes grèves à tout du point de vue cubanaire. Elle était tellement dure et tellement difficile que finalement, à la fin, ils étaient épuisés parce qu'il faut manger. Et ils refusaient véritablement toute intervention, si vous voulez, pour les aider à se terminer cette grève.
Roland Trempé.
Étant donné le rapport de force, ils n'y étaient plus. Ils auraient dû la terminer, la grève, plus tôt. Ah ben, ils ont été vaincus, quoi. Ils n'ont pas gagné la grève. Et alors, tous ceux qui avaient été repérés, ils n'ont pas été réembauchés. Enfin, il y a eu... Vous voyez, autrement dit, elle a des conséquences à long terme qui se prolongent jusqu'au moment où ils vont enfin obtenir l'amnistie. Il a fallu attendre le gouvernement Mitterrand, 81. Mais vous vous rendez compte? On est 1948... 1981,
Et c'est seulement là, il y a quelques mois, un mois et demi à peine, qu'ils ont obtenu que leur licenciement soit reconnu nul, car discriminatoire.
Et c'est ça. Ouais. Vous vous rendez compte? Ah mais, si c'est un rebondissement à long terme, c'est incroyable. C'est une grève unique en son genre, quoi. Dans l'histoire du mouvement ouvrier français et l'histoire des mineurs. Elle a laissé des traces incroyables. Et la Fédération du Sous-Sol est sortie de là, non pas brisée comme ils le pensaient, amoindrie bien entendu, mais dans le vote pour les délégués mineurs à la sécurité qui ont suivi, la Fédération du Sous-Sol n'a pas perdu. C'est beaucoup plus tard, au fur et à mesure que ça décline, que FO prendra la relève. Mais ils vont retrouver leur unité de combat en 63. Autrement dit, 48-63. Et la grève de 1963 a été une grève unitaire, sans violence, sans répression, et victorieuse. Mais c'est long, 48-63.
La justice a fini par leur donner raison, mais il aura fallu pour cela attendre 60 ans.
RTL, 11 mars 2011.
17 anciens mineurs du Nord-Pas-de-Calais avaient été licenciés par les Charbonnages de France pour avoir fait grève à l'automne 1948. La cour d'appel de Versailles a fini par reconnaître que ces licenciements étaient discriminatoires et qu'il n'y avait pas lieu de faire jouer la prescription, même longtemps après les faits. Et au fond, cette victoire est amère pour les mineurs.
Sur les quelques 3000 gueules noires licenciées à l'époque pour fait de grève, seuls 17 se battaient encore pour obtenir réparation. Les familles vont chacune recevoir 30 000 euros de dommages et intérêts, une somme qui ne compensera jamais le déclassement social de ces mineurs, mais pour leur avocat, Maître Ben Achour, ils ont retrouvé leur dignité.
C'est une réparation qui concerne une souffrance qui a perduré depuis 60 ans, qui est transmise de génération en génération, et vous pouvez imaginer le bonheur des petits-enfants, des enfants. Je sais que dans de nombreuses familles, on fait la fête aujourd'hui.
La crainte des familles, c'est que cette joie soit de courte durée et que l'établissement public qui a remplacé les Charbonnages de France ne décide de se pourvoir en cassation.
Et voilà, et c'est ce qui s'est passé effectivement, pourvoi en cassation. Madame Lagarde a préféré cette issue, montrant le côté extrêmement revanchard de l'État français. On retrouve Tino Grimbach, l'un des avocats des mineurs.
Alors pendant que j'étais en train de faire ce reportage, il y a eu un retournement de situation, c'est-à-dire que les Charbonnages de France, donc l'État, a décidé de contester la décision de la Cour d'appel de Versailles et de porter l'affaire devant la Cour de cassation.
Nous avons espéré que ça se terminerait là, puisque les sommes étaient un tout petit peu plus de 500 000 euros pour 17 familles et leurs ayants droit. Et comparé aux 45 millions d'euros obtenus par M. Tapie dans un arbitrage, je trouve que véritablement le gouvernement se serait honoré s'il était capable de le faire pour Tapie, qu'il aurait pu le faire pour ces 17 familles qui avaient donné beaucoup à notre pays. Et donc tout ce travail, tout cet engagement des mineurs a été vraiment dénié. Et bon, j'estime que là le gouvernement s'est déshonoré en ne donnant pas les instructions pour que cette affaire ne soit pas soumise à la Cour de cassation et qu'elle s'arrête là où elle devait s'arrêter. Donc le débat continue, il va continuer dans les années qui suivent, puisqu'il faudra bien, je pense, un an et demi ou deux ans avant que cette affaire soit tranchée par la Chambre sociale. Et donc moi je pense que c'est minable, parce qu'il y a très très peu de survivants. Je sais pas, j'arrive pas à comprendre que des hommes qui se prétendent parler au nom de la France, qui ont des responsabilités d'hommes d'État, se complaisent dans la médiocrité à ce point. C'est quand même minable. J'ai pas d'autre mot à dire, c'est minable.
Merci à Maître Tino Grimbach, merci à Achille Blondeau, Roland de Trempé, merci à tous. C'était un reportage de Charlotte Perry. À lire la biographie Achille Blondeau, mineur résistant déporté syndicaliste, de Pierre Outhéry, qu'on a rencontré, un historien, qui était sorti aux éditions du Jet Bleu, le Jet d'oiseau, en 2006. Vous trouverez toutes les informations sur le site de France Inter, la rubrique émission là-bas, si j'y suis. Vous pouvez réécouter cette émission et écrire des commentaires si vous le souhaitez, également sur là-bas.org. Vous pouvez réécouter cette émission ainsi que les deux précédentes sur ce sujet. Jean-Philippe Jeanne et Defar Guérid étaient à la technique aujourd'hui. Koyen Bien et Franck Adhérer ont réalisé cette émission. Modeste et génial, il faut bien le dire au passage, tout de même. Assistez d'Agnès Lebot et Marina Touyez attend vos messages sur le répondeur de la base J'y suis au 01 56 40 37 37.
Triple axel, double boucle piquée.
Oh, c'est sensationnel. C'est du très grand art. C'est une belle promesse de médaille d'or pour la France aujourd'hui, 20 février 2018, à Annecy, ça c'est sûr.
Pour que le rêve devienne réalité, nous avons besoin de vous maintenant. Le 6 juillet prochain sera choisie la ville qui accueillera les Jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver en 2018. Soutenez la candidature sur annecy2018.com. Annecy 2018, la neige, la glace et vous.
Radio France, supporter d'Annecy 2018.
On fait quoi?
Bah ça dépend. C'est quoi le montant du jackpot loto de la fête des pères?
7 millions d'euros.
7 millions d'euros?
Ouais.
Ah bah là si on gagne, on pourra offrir à papa le bateau de ses rêves. Hein.
Ah non, 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 un bateau c'est pas une bonne idée. Hein.
Et pourquoi?
Réfléchis un petit peu.
Bah je vois pas.
Un bateau, ça va sur...
L'eau.
De la...
Mer.
Et c'est la fête des...
Loto, la chance appartient à tout le monde. Ce samedi, jackpot loto de la fête des pères de 7 millions d'euros. À partager au rang 1, voire règlement. FDJ.
Jouer avec XC comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
France Inter présente Arnaud Florent Didier.
Je vais au cinéma.
En concert le 7 juillet prochain au Théâtre des Bouffes du Nord à Paris et en tournée dans toute la France.
C'est l'histoire d'un type qui meurt pour ses enfants. Enfin, je crois, j'ai pas suivi vraiment. Il y avait cette fille au premier rang.
Retrouvez Arnaud Florent Didier dans le programme musical de France Inter et sur franceinter.com.
16h sur Inter, on se retrouve demain 15h pour la basse J'y suis. Je vous laisse pour les infos avec Julie Gacon. Salut.
Bonjour. La visite d'Alain Juppé en Algérie et cette petite phrase, nous n'allons pas ressasser indéfiniment le passé colonial. Le ministre des Affaires étrangères répondait à une question sur une éventuelle repentance de la France. La suite de sa réponse est qu'il faut se concentrer pour voir ce que la France et l'Algérie peuvent faire dans un monde en plein changement, dans leur intérêt mutuel. La question du passé colonialiste de la France en Algérie est toujours l'objet de vives tensions entre les deux pays. Paroxysme en 2005, quand l'Assemblée a voulu inscrire le rôle positif de la colonisation française dans les manuels scolaires. Ce sont à présent 7 enfants qui sont hospitalisés à Lille après avoir mangé des steaks hachés suspects. Le 7e a été admis en début d'après-midi après des symptômes d'intoxication. La Commission européenne attend de connaître précisément l'origine de cette contamination avant de lancer une alerte européenne. Il n'y a pas lieu de comparer avec l'Allemagne, dit-elle. Ce n'est pas la même souche de la bactérie E. coli. Le fabricant de ces steaks vendus chez Lidl a expliqué ce matin avoir importé la viande de 3 pays, l'Allemagne, mais aussi la Belgique et les Pays-Bas. Plusieurs milliers de cheminots défilent cet après-midi à Paris, manifestation contre l'ouverture à la concurrence du transport régional de voyageurs. Les 4 principaux syndicats de la SNCF, CGT, UNSA, Sudrail et CFDT, avaient appelé à une journée d'action. Lors du dernier colloque de la compagnie ferroviaire, la ministre des Transports, Nathalie Kosciusko-Morizet, estimait que la SNCF ne pouvait pas faire durablement l'économie d'une adaptation à de nouvelles organisations du travail. Les créations d'entreprises sont reparties à la hausse en France au mois de mai, plus 29% après la chute du mois d'avril. Ce chiffre ne prend pas en compte les créations en auto-entrepreneurs qui ne sont pas toujours synonymes d'emploi. La Grèce restera sur la voie du devoir. Georges Papandréou, toujours inflexible, malgré une grève générale très suivie hier, malgré aujourd'hui la démission de 2 députés de son camp, 2 députés socialistes qui n'acceptaient pas le nouveau plan de rigueur débattu en ce moment au Parlement. Georges Papandréou doit annoncer les résultats de son remaniement ce jeudi avant d'engager un vote de confiance au Parlement, sans doute lundi. La Turquie viendra en aide aux Syriens de l'autre côté de la frontière. Le ministre turc des Affaires étrangères s'y est engagé devant ses ambassadeurs. Il y a plus de 10 000 personnes juste en face de notre frontière, derrière des barbelés, disait-il. La Turquie compte leur envoyer une aide alimentaire. Pendant ce temps, l'armée syrienne resserre toujours plus son étau sur les villes du nord. 2 d'entre elles sont encerclées en ce moment par les chars et les blindés, d'après les témoignages des habitants et une association de défense des droits de l'homme. Depuis la mi-mars, la répression du régime de Bachar al-Assad a déjà fait 1300 morts parmi les civils. Un mois et demi après la mort de Ben Laden, Al-Qaïda a désigné son successeur, l'Égyptien Ayman al-Zawahiri, jusque-là numéro 2, considéré comme l'idéologue de la nébuleuse. En prenant la tête d'Al-Qaïda, il devient l'homme le plus recherché au monde, mis à prix 25 millions de dollars, même s'il est loin d'avoir l'envergure de Ben Laden, d'après un haut responsable américain.
Tous les jours,
dernier mot avant qu'on vous emmène,
à partir de 11h,
flûte,
le fou du roi
Stéphane Bern.
Le mot que vous détestez, Stéphane. Banlieue.
Pour assister au prochain Fou du Roi, en direct du studio 106 avec Guy Dru, Robert Bello et Hans-Peter Sick, rendez-vous demain vendredi dès 10h devant la porte B de la maison de Radio France.
C'est bien travaillé.
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.
Le Fou du Roi.
Oui.
Tous les jours sur France Inter à partir de 11h. France Inter.
La différence.
Il est 16h04 sur France Inter, c'est l'heure du carrefour de l'Odéon. Bonjour Frédéric L'Odéon.
Bonjour Julie Gacon.
Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous et merci d'être avec nous. Il est dans les murs, il va venir tout de suite, et dans les couloirs. Jérémy Rohrer, chef d'orchestre, compositeur, va nous rejoindre pour nous parler un peu du Festival Mozart, qui est un magnifique moment qui se déroule au Théâtre des Champs-Élysées. Ça a déjà commencé d'ailleurs avec Idoménée de Mozart et ça se termine le 28 avec la Finta Giardiniera, la fausse jardinière, toujours de Mozart avec plein d'orchestres, de solistes. Enfin vraiment, c'est un tableau magnifique. Tableau musical, bien sûr, qu'il va nous décrire. On va entendre tout de suite Jérémy Rohrer avec son ensemble qui s'appelle le Cercle de l'Harmonie dans la 26e symphonie de Mozart, très peu connue, elle date de 1773. Et ce molto presto fait bien sonner les vents. On entend la présence presque un peu ironique et presque un peu sur le premier plan, le premier pas, vraiment, de ces instruments avant que Mozart a su développer en son temps de manière qui a quelquefois un peu étonné les contemporains. Thank you.
Molto presto de la 26e symphonie de Mozart, fort peu connue, écrite à l'âge de 17 ans. Je l'ai dit, les vents sont très présents, hein, ils ont un caractère un peu mordant même. Dirigé par Jérémy Rohrer, qui vient d'arriver, et il était avec le Cercle de l'Harmonie, son orchestre. Jérémy, bonjour.
Bonjour.
On est très heureux que vous soyez avec nous, pour plein de choses, parce que déjà ce disque-là, je l'ai diffusé. Il y a un disque Beethoven qui vient de paraître aussi. Et puis, il y a ce festival consacré à Mozart, au Théâtre des Champs-Élysées. Et c'est vraiment alors un menu, j'ai envie de dire, tout à fait superbe, avec vous-même, qui dirigez Idoménée, qui n'est pas non plus le plus connu des opéras de Mozart. Et puis on peut entendre des orchestres, on peut entendre le National de France, Kurt Masur, la Messe en Ut, le Quatuor Ebène, Michel Portal, Éric Le Sage, etc., etc. Les sœurs Labeck avec Simon Rattle. Parce que ici, à votre place, hier, nous avions un autre chef d'orchestre, Monsieur Bichkov, donc il a signalé ce concert précisément en disant qu'elles allaient jouer sur des pianos fortés. Alors c'est vrai ça, c'est la première fois il a dit en France, c'est la première fois en France seulement.
Pour elle, mais je note l'intérêt effectivement pour ce type d'instrument de nombreux interprètes. Oui, oui. J'avoue que chez les pianistes, c'est une sensibilité qui se développe de plus en plus et c'est assez fascinant. Le goût, par exemple, pour certains pianistes comme Christian Zimmermann ou des jeunes pianistes comme David Frey de s'intéresser à la facture de l'instrument, au développement de l'instrument, c'est un aspect de la vision artistique tout à fait nouveau et intéressant. Et je m'en réjouis vraiment.
Voir ce qu'il y avait avant le fameux grand concert piano.